Bonjour. Nous nous retrouvons donc après une interruption d'une semaine. Je rappelle que nous sommes engagés dans la deuxième partie du cours qui est intitulée « La tradition de l'Église ». Et je rappelle que cette deuxième partie du cours nous donne l'occasion de nous arrêter sur quatre thèmes qui sont dans une large mesure quatre moments aussi, puisque globalement je suis l'ordre chronologique. D'abord, le thème de la divinisation chez les pères grecs. Nous avons vu cela la dernière fois. Puis, les controverses entre Pélage et Augustin. Ensuite, troisième temps, nous passerons au Moyen-Âge et nous ferons un arrêt privilégié sur l'œuvre de saint Anselme. Et quatrième moment, sur lequel nous nous arrêterons aujourd'hui et surtout la prochaine fois, la doctrine de Luther et le Concile de Trente avec son fameux décret sur la justification. La dernière fois, j'ai parlé assez longuement du débat entre Augustin et Pélage, après avoir présenté, raconté en quelque sorte la crise, la controverse pélagienne, j'ai tenté d'exposer la pensée de saint Augustin lui-même. J'ai montré quelle était sa compréhension du péché des origines, le péché dont parle la Genèse au chapitre 3, le péché d'Adam et Ève. Mais il me restait à présenter la pensée d'Augustin sur le péché originel en tout homme, en tout être humain. Tout être humain en tant qu'il est marqué justement par la présence de ce péché qui remonte à Adam et Ève dans la perspective d'Augustin. J'ai eu l'occasion, tout à fait à la fin de la dernière séance, de résumer l'argument essentiel d'Augustin. Je l'ai remis d'ailleurs sur la feuille que vous avez prise aujourd'hui à l'entrée de cette salle. L'argument essentiel d'Augustin, c'est que il y a un péché originel en tout être humain parce que le Christ est venu comme sauveur pour tous les hommes sans exception. Le Christ est le sauveur de tous, donc tous ont besoin d'être sauvés par le Christ. Voilà en quelque sorte l'argumentation d'Augustin. Bon, j'avais souligné la petite incertitude d'Augustin ou son petit embarras à propos de la Vierge Marie. Finalement, il préfère ne pas s'arrêter sur le cas de la Vierge Marie et il préfère s'en tenir à l'affirmation fondamentale « Tous ont besoin d'être sauvés par le Christ, quoi qu'il en soit du cas exceptionnel de la Vierge Marie. » Il me restait à compléter ce développement par trois considérations. Première considération, à propos de l'argumentation scripturaire d'Augustin. L'argumentation scripturaire d'Augustin, elle est bien sûr liée à l'Épître aux Romains, spécialement à la fameuse formule de saint Paul au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, « Tous ont péché ». Donc Augustin prend cette expression à la lettre, « Tous ont péché, juifs et grecs », comme dit saint Paul. Donc c'est pour Augustin un argument très fort en faveur de cette idée d'un péché originel présent en tout être humain, y compris présent à l'enfant avant même qu'il ait l'âge de raison, un péché qui est mystérieusement présent à tout être humain. Mais dans cette argumentation scripturaire d'Augustin, il y a un texte qui est spécialement convoqué. C'est le texte de Romains, chapitre 5, verset 12. Dans la feuille que je vous avais donnée la dernière fois, j'avais donné le texte intégral de ce verset. Ce verset, dans la traduction qui en est donnée par la Tob, c'est ceci. « De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et... » par le péché la mort, et que de la façon suivante, la mort a passé en tous les hommes, à savoir étant rempli la condition que tous ont péché. Bon, en fait, c'est la traduction, c'est pas exactement la traduction de la Tob, c'est la traduction qui était donnée par Stanislas Lyonnais, un grand connaisseur de l'Épître aux Romains. En tout cas, c'est le sens. C'est le sens que l'on s'accorde aujourd'hui à reconnaître à ce verset de Romains 5, 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché, ou étant rempli la condition que tous ont péché. Je crois que la Tob traduit « du fait que tous ont péché ». Le problème, c'est que Augustin se référait à la traduction latine de ce verset de saint Paul. Et dans la version latine qu'utilisait Augustin, il y avait le texte suivant, je vous l'avais donné dans la feuille il y a 15 jours. La version latine que lisait Augustin était celle-ci. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas de différence. Et qu'ainsi, le péché a passé en tous les hommes. Vous voyez la différence? Dans le texte grec de l'Épître aux Romains, tel qu'il est traduit par le père Stanislas Lyonnais, tel qu'il est traduit dans la Tob, dans la Bible de Jérusalem, dans le texte grec, qu'est-ce qui est passé en tous les hommes? C'est la mort. Mais dans la version latine qu'Augustin avait à sa disposition, ce qui est passé en tous les hommes, c'est le péché. Et en plus, dans la version latine dont disposait Augustin, ce mot « péché » était compris comme l'antécédent de la proposition relative qui suit. Le péché a passé en tous les hommes, péché dans lequel tous ont péché. Vous voyez la différence avec le texte grec de l'Épître aux Romains, où il était dit « la mort a passé en tous les hommes ». Du fait que tous ont péché. Alors, la mort a passé en tous les hommes, c'est quelque chose qui ne fait pas problème. Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus. La mort, de fait, fait partie de la condition humaine universelle. Reconnaissons que dans le texte grec de l'Épître aux Romains, il y a quelque chose qui déjà fait peut-être un peu plus difficulté, c'est que la mort a passé en tous les hommes du fait que tous ont péché. Ça veut dire que pour Paul, il y avait quand même un lien entre cette transmission de la mort et le péché commis par tout être humain, par tous les hommes. Mais le problème, c'est que Augustin radicalise la difficulté de ce texte difficile de l'Épître aux Romains. Augustin radicalise la difficulté puisqu'il comprend que ce n'est pas d'abord le péché, ce n'est pas d'abord la mort qui a passé en tous les hommes, c'est le péché. Le péché a passé en tous les hommes. Et donc, Augustin va s'appuyer sur ce verset de Romains 5, 12 tel qu'il le comprend pour justifier, du point de vue de la Bible, l'idée d'une transmission du péché originel à tout homme. Et en plus, en ajoutant le péché dans lequel tous ont péché, Augustin renchérit en quelque sorte et souligne que tous les hommes, à quelque époque que ce soit, se trouvent dès leur naissance intégrés ou inclus en quelque sorte dans ce péché qui remonte à Adam. Donc, comme vous voyez, le dossier est compliqué du point de vue biblique, mais ce qu'on peut au moins retenir des quelques explications que je viens de donner, c'est que l'argumentation d'Augustin repose, pour ce qui est de Romains 5, 12, sur un texte fautif. Voilà. L'argumentation d'Augustin repose sur une version de Romains 5, 12 qui est erronée, qui n'est pas conforme au texte grec de saint Paul, ni d'ailleurs à la traduction, aux commentaires grecs de ce texte de Paul par les pères de l'Église de langue grecque. Alors, je ne veux pas dire que l'interprétation d'Augustin repose uniquement sur cette argumentation fautive, parce qu'encore une fois, l'argumentation d'Augustin repose aussi sur le verset de Paul en Romains 3, « Tous ont péché ». Mais disons que la lecture erronée qu'Augustin a faite de ce verset de Romains 5, 12 l'a conduit à renforcer cette conviction qu'il habitait déjà et qui est devenue encore plus forte de ce fait, la conviction selon laquelle ce n'est pas simplement la mort qui s'est transmise à tous les hommes, mais le péché d'Adam lui-même. Voilà. Alors, à partir de là, considération suivante, Augustin réfléchit sur la transmission du péché originel au péché personnel. C'est-à-dire qu'Augustin non seulement affirme que le péché d'Adam s'est transmis à tout être humain, quel qu'il soit, mais il considère que les péchés personnels, c'est-à-dire les péchés qui sont volontairement et activement commis par tel ou tel homme ou telle ou telle femme, ces péchés, eh bien, actualisent en quelque sorte le péché du premier homme. Il y a passage du péché des origines au péché personnel actuel. Donc, si vous voulez, il y a, pour résumer, trois degrés, trois niveaux. Bon, premier niveau, c'est celui que nous avons vu la dernière fois, le péché d'Adam, hein, le péché du premier homme, parce que pour Adam, pour Augustin, ça ne fait aucun doute que Adam est quelqu'un qui a historiquement existé, donc il y a eu à l'origine le péché d'Adam et Ève. Bon. Ensuite, deuxièmement, il y a le péché originel en tout homme, autrement dit, ce péché d'origine, hein, ce péché des origines, se transmet mystérieusement à tout être humain, et tout être humain, dès qu'il naît en ce monde, est marqué par ce péché originel présent en lui. C'est le deuxième niveau. Et puis, troisième niveau, il y a l'actualisation de ce péché originel dès lors qu'un homme ou une femme pêche personnellement. Parce que, si vous voulez, le péché originel, il est présent pour Augustin en tout être humain qui vient à l'existence, mais de soi, il pourrait rester en quelque sorte à l'état de veille, comme on dit en informatique. Eh bien non, justement, il ne reste pas à l'état de veille. Ce péché originel présent en tout homme se trouve actualisé chaque fois que quelqu'un commet volontairement, personnellement, des péchés. Voilà, c'est à peu près clair. Donc nous avons, avec cette théologie augustinienne qui s'est développée dans une large mesure en réaction contre Pélage, une accentuation très très forte qui est mise sur le péché. Et, dernière considération, et là nous touchons un point évidemment qui est particulièrement difficile et certainement contestable dans la pensée de saint Augustin. Dernière considération, Augustin ne se contente pas de dire ce que je viens de dire, mais il laisse entendre que cette transmission du péché des origines à tout être humain est une transmission qui se fait de génération en génération, et il pense même que, en quelque sorte, cette transmission se trouve accentuée par ce qu'il appelle la concupiscence, à laquelle est liée, pour lui, l'union charnelle. Et là, nous touchons un aspect tout à fait contestable de la pensée d'Augustin. C'est l'idée, le philosophe Paul Ricoeur a résumé, si vous voulez, cette pensée d'Augustin en disant que pour lui, il y a la conception d'une transmission quasi biologique du péché originel. Là, il y a évidemment un point qui fait difficulté. Alors, je m'empresse d'apporter quand même une nuance. Il faut toujours rechercher, toujours essayer d'être équitable par rapport à un auteur que l'on commente. Il faut être équitable. Donc, sur ce point aussi, par rapport à Augustin, il ne s'agit pas du tout de laisser entendre que pour Augustin, la sexualité soit quelque chose de mauvais en soi. Pas du tout. Il faut pas oublier que Augustin s'est battu contre les manichéens. Or, le manichéisme avait justement pour caractéristique d'opposer de façon très radicale l'esprit et la matière, la lumière et les ténèbres. Donc, pour les manichéens, justement, tout ce qui est de l'ordre de la chair, la sexualité, etc., c'est pris dans l'ordre de la matière qui, comme telle, est condamnable. Et saint Augustin, bien qu'il ait été pendant 9 ou 10 ans adepte de la secte manichéenne, s'est ensuite vivement retourné contre les manichéens. Il a souligné que la matière n'était pas du tout mauvaise, puisque justement elle a été créée par Dieu. Elle est l'œuvre du Créateur. Donc il faut être équitable par rapport à Augustin. Augustin n'a pas voulu du tout dire que l'ordre de la chair comme tel, l'ordre de la sexualité en particulier, était mauvais. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est que le péché s'est servi, en quelque sorte, de cela. Il s'est servi de l'ordre charnel, de l'ordre de la chair, pour se transmettre de génération en génération. Et il a par là même induit cette idée que Ricoeur résume ainsi quand il parle d'une conception de la transmission du péché qui serait quasi biologique. Voilà donc comment Augustin comprend le péché. Et alors, sur ces derniers points, lorsqu'il parle de la transmission du péché des origines au péché personnel, Augustin n'hésite pas à être très très radical sur le fait que des hommes non seulement sont héritiers de ce péché des origines, mais s'y adonnent personnellement et volontairement, et s'y adonnent de façon telle qu'ils finissent par être eux-mêmes prisonniers de cet acte volontaire. Je disais tout à l'heure, il y a un moment où le péché d'origine ne reste pas simplement à l'état de veille, mais les péchés personnels sont les péchés par lesquels l'être humain actualise volontairement ses péchés. Mais le problème, c'est que à force d'actualiser ses péchés, on finit par s'y habituer. Voilà. Et quand on s'y habitue, qu'est-ce qui se passe? On en devient esclave. Et quand on en devient esclave, on n'est plus libre. Voilà. Et c'est pourquoi Augustin, lorsqu'il commente le psaume 132, n'hésite pas à dire ceci, c'est un texte que je vous avais donné la dernière fois, le dernier texte que j'avais transcrit sur la feuille il y a 15 jours. Augustin dit ceci: « J'étais enchaîné, non par des fers étrangers, mais par les fers de ma propre volonté. » Voilà. Le péché lui-même devient une habitude. Et s'il devient une habitude, eh bien, il n'y a plus place pour la liberté, et l'être humain fait l'expérience d'être enchaîné à son propre péché. Voilà donc comment on peut résumer la pensée d'Augustin. Alors, j'essaye, si vous voulez, de faire le bilan de cette réflexion d'Augustin sur le péché. Il faut, au fond, et c'est difficile, essayer de distinguer les apports fondamentaux d'Augustin et les points sur lesquels sa pensée s'avère discutable ou même contestable. Alors, les apports fondamentaux d'Augustin, je résume ce que j'ai dit la dernière fois et ce que je viens d'ajouter. Les apports fondamentaux d'Augustin, je dirais d'abord, c'est sa réflexion sur ce qui est l'essence même du péché, à savoir l'orgueil. Je renvoie à ce que j'avais dit la dernière fois. On peut penser qu'il y a une analyse très profonde et très fine d'Augustin sur ce qui est la racine du péché tel que le livre de la Genèse le présente au chapitre 3. L'essence du péché, c'est l'orgueil avec toutes ses conséquences, les formes de convoitise qui en découlent. Deuxième apport d'Augustin qu'il faut vraiment entendre, c'est l'idée d'un péché déjà là. Alors là, je fais référence à une expression de Paul Ricoeur, hein, le mal déjà là. Je l'applique au péché, hein, le péché déjà là. Évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas de soi pour nous, modernes. Hein. Comment admettre l'idée que le péché originel soit un péché qui se révèle finalement de façon universelle, alors même que l'être humain n'est pas censé être directement responsable de ce qui a pu être commis par celui que la Bible désigne à travers Adam ou à travers Ève. Et cependant, Augustin fait ici preuve de réalisme, tout simplement. Il constate que, qu'on veuille ou non, eh bien, l'être humain est habité par des forces qui le portent à commettre le mal. Voilà. Et Augustin dit cela, non pas simplement à propos de gens qui ont l'âge de raison et qui vont librement ou volontairement décider de commettre le mal, mais Augustin dit cela vaut aussi pour des gens qui n'ont pas l'âge de raison, et de nouveau, il prend le cas des enfants, de petits-enfants, qui, sans que leur volonté personnelle soit directement engagée, forcément, puisqu'ils n'ont pas encore l'âge de raison, eh bien, néanmoins, ces enfants apparaissent comme pouvant déjà commettre ou accomplir des gestes qui vont être de vol, de mensonge ou d'autres fautes, entre guillemets. Il y a un passage très, très intéressant de saint Augustin dans les Confessions. Il raconte comment, alors qu'il était enfant, enfin avec d'autres enfants, eh bien, ils ont vu des poires magnifiques sur un poirier. Voilà. Et ils n'ont pas pu résister, ils les ont volées. Et c'était complètement gratuit, parce qu'ils n'avaient pas spécialement faim, il n'y avait pas de. Voilà. Mais c'est complètement gratuit. Voilà. Pour Augustin, ce sont autant d'indices de cette présence d'un péché qui est déjà là. Antérieurement à l'exercice de la liberté humaine. Ça, c'est complètement à l'opposé de ce que dit Pélage, évidemment. C'est l'existence de ce péché déjà là. Enfin, troisième apport qu'il faut entendre à travers la réflexion d'Augustin, c'est que ce que dit Augustin sur le péché, il le dit quand même fondamentalement à la lumière du salut. Il ne faut pas être dupe, parce que on pourrait tenter de se dire, au fond, ce qui est premier chez Augustin, c'est la réflexion sur le péché, et ensuite seulement, il nous parle du Christ qui sauve du péché. En réalité, le mouvement profond de la pensée augustinienne est inverse. Ce qui est premier pour lui, c'est l'expérience d'être délivré, d'être sauvé par le Christ. Et c'est à la lumière de ce salut par le Christ que Augustin réalise l'ampleur du péché. Au fond, de ce point de vue-là, la pensée d'Augustin retrouve le mouvement véritable de la pensée de saint Paul dans l'Épître aux Romains. Parce qu'évidemment, la pensée de saint Paul dans l'Épître aux Romains, comment procède-t-elle? À partir du chapitre 1, verset 18, jusqu'à la fin du verset 3, c'est accablant. Jusqu'à la fin du chapitre 3, c'est accablant, parce qu'il est question du péché. Et ensuite seulement, vers la fin du chapitre 3, maintenant, le Christ nous a justifiés. Donc on peut avoir l'impression, si on lit l'Épître aux Romains dans l'ordre, on peut avoir l'impression en effet que pour saint Paul déjà, ce qui est premier, c'est le péché, et qu'ensuite seulement, il nous parle du Christ comme de celui qui nous donne la justice, qui nous libère, qui nous sauve. Mais en réalité, le mouvement profond de la pensée de Paul est inverse. C'est à la lumière du salut manifesté en Christ qu'il se retourne en quelque sorte vers la situation réelle de l'humanité et qu'il découvre cette situation comme la situation d'une humanité pécheresse. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier que, justement, l'Épître aux Romains ne commence pas avec le verset 18 du chapitre 1, cette longue présentation du péché universel dans l'humanité, mais juste auparavant, il y a l'évocation de l'Évangile, l'Évangile du Christ. C'est la lumière de l'Évangile et du salut par le Christ que Paul accède à la conscience du péché dans son universalité. Voilà. Donc, sur tous ces points, je pense qu'il y a vraiment des apports tout à fait importants de la pensée d'Augustin qui se montre, à ce point de vue, un fidèle commentateur de saint Paul. Par contre, il y a des points discutables dans la pensée d'Augustin. Des points discutables et... Alors, il y a d'abord ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire... Mais ça, ce n'est pas la faute d'Augustin. Une lecture erronée de Romains 5.12. Bon, mais ça, ce n'est pas sa faute. Il était tributaire de la version latine de Romains 5.12 qu'il avait sous les yeux. Indépendamment de cette lecture fautive de Romains 5, 12, deux points nous apparaissent aujourd'hui comme discutables ou même contestables chez Augustin. Tout d'abord, l'idée que tous les êtres humains sont en quelque sorte inclus en Adam. Voilà. En quelque sorte, Augustin reporte sur le premier homme la responsabilité qui est à l'œuvre dans l'histoire, et il laisse entendre que voilà, ce qui est advenu au premier homme, ce péché du premier homme, eh bien, se transmet tel quel, au fond, à tout homme dans l'histoire. Et surtout, le deuxième point qui est contestable, c'est que pour Augustin, je l'ai dit tout à l'heure, on a le sentiment que, au moins à travers certains textes, le péché se transmet de génération en génération par ce qu'il appelle la concupiscence. Concupiscence à laquelle est liée, depuis le péché, l'union charnelle. Je dis bien depuis le péché, hein, parce qu'avant le péché, l'union charnelle est entièrement bonne pour Augustin. Mais depuis le péché, il se trouve qu'en fait, eh bien, l'union charnelle se trouve en quelque sorte ce par quoi ou à travers quoi va se transmettre le péché. Pas seulement, hein, parce que c'est aussi à travers l'union charnelle que se perpétue, bien sûr, le genre humain. Et ça, Augustin le reconnaît, c'est tout à fait positif. Mais pour lui, c'est ça qui est contestable dans sa pensée, cette transmission de génération en génération est en même temps affectée. Il y a un lien qui est désormais posé depuis le péché du premier Adam entre l'union charnelle et cette diffusion ou cette transmission du péché. Et là, il y a un point qui est évidemment tout à fait contestable. On n'est plus ici dans la perspective des pères grecs. Il y a une inflexion qui est donnée à la compréhension du péché. Et sur ce point, évidemment, on ne pourra pas suivre, on ne peut plus suivre Augustin. Il faut toujours se rappeler aussi que ces deux points discutables que je viens d'évoquer hein, chez Augustin, cette idée d'une inclusion de tous les hommes dans le premier Adam pécheur et cette conception d'une transmission quasi biologique du péché, hein, ces deux points contestables, il faut toujours se rappeler qu'Augustin a été conduit à les développer dans un contexte polémique. Voilà. S'il n'y avait pas eu la controverse avec Pélage, peut-être qu'Augustin ne serait pas allé aussi loin. Mais certainement, la controverse avec Pélage l'a conduit à renchérir en quelque sorte dans son argumentation et à la développer au-delà de ce qui était souhaitable et nécessaire. Je le disais d'ailleurs la dernière fois, de son vivant déjà, la pensée d'Augustin sur le péché a suscité des controverses. Elle a suscité des controverses en particulier en Afrique du Nord et en Provence. J'ai fait allusion l'autre jour au monastère de Lérins et au monastère de Provence plus largement. Des moines dans ces deux régions, en Afrique du Nord, surtout du côté de l'actuelle Tunisie et du côté de la Provence, des hommes écrivent à Augustin ou font intervenir quelqu'un pour lui écrire et ils déclarent, mais ils trouvent que Augustin va trop loin. Ils trouvent que Augustin, certes, a raison de refuser la position de Pélage, qui laissait entendre qu'à la limite, il n'y avait pas besoin de la grâce de Dieu et que l'homme pouvait par lui-même se libérer du péché. Donc, les moines de Tunisie, où les moines de Provence sont d'accord avec Augustin dans son souci de répondre à l'erreur de Pélage, mais ils trouvent que Augustin va très loin, trop loin, dans sa réponse à Pélage. Et en particulier, les moines de Provence opposent à Augustin deux choses. Premièrement, ils lui opposent que l'initiative de l'être humain précède le don de Dieu. Autrement dit, on ne peut pas simplement dire l'être humain qui est pécheur doit s'en remettre entièrement à la grâce de Dieu. Il faut ajouter que l'être humain doit prendre l'initiative pour être accueillants à cette grâce de Dieu. Voilà une première nuance qu'ils veulent apporter à la position d'Augustin. Et puis surtout, le point sur lequel les moines d'Afrique du Nord, enfin certains moines d'Afrique du Nord et de Provence s'opposent à Augustin, c'est la question de la prédestination. Parce que, bon, c'est un point que je n'ai pas encore évoqué, mais ça fait aussi partie des points discutables dans la pensée d'Augustin, dans son souci même de combattre la thèse de Pélage, Augustin en vient à souligner que certains risquent d'être prédestinés à ne jamais connaître le salut. Et donc, des moines de Provence interviennent à ce moment-là et disent « Une telle pensée risque de conduire au fatalisme. » Si on dit que certains hommes risquent d'être définitivement exclus du salut, eh bien, cela va conduire des chrétiens à se dire bah, à quoi bon lutter pour son salut si on sait que d'avance on est perdu, ou d'ailleurs si on sait que d'avance on est sauvé. Il y a un risque de fatalisme. Et puis surtout, les moines de Provence opposent à Augustin, l'Écriture nous dit que le Christ est mort pour tous. Donc de quel droit affirmer que certains seront exclus du salut, alors que l'Écriture, notamment dans le passage de Saint Paul, dans la première épître à Timothée, l'Écriture dit explicitement « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Alors Augustin a répondu à ces attaques, ces objections des moines de Provence et de l'Afrique du Nord, mais après sa mort, donc Augustin est mort en 430, après sa mort, les débats, les controverses ont continué. Et on voit bien, tout au long du 5e siècle, les débats deviennent parfois très très vifs sur ces sujets complexes de la grâce et de la part de l'être humain dans la marche vers son salut. Alors, il y a un homme qui est intervenu dans cette controverse, dans le courant du 5e siècle. Il s'appelle Prosper d'Aquitaine. Et il a écrit un ouvrage, petit ouvrage, c'est pas très long, qui s'appelle L'appel de tous les peuples. Et il essaye de trancher la question. Il est assez favorable pour l'essentiel aux thèses d'Augustin, c'est-à-dire qu'il se rend compte que l'être humain ne peut pas par lui-même obtenir son salut. Mais par contre, il résiste fortement à l'idée selon laquelle certains ne pourraient absolument pas parvenir au salut. Et Prosper d'Aquitaine va remettre en évidence le thème biblique de l'universalité de l'offre du salut. On voit bien ce qui s'est passé. Hein. Augustin était tellement soucieux d'insister sur la grâce de Dieu contre Pélage. Hein. Augustin était tellement soucieux d'insister sur la primauté, la nécessité absolue de la grâce de Dieu, qu'il risquait d'en venir parfois à restreindre la possibilité du salut. Et ce que répond Prosper d'Aquitaine à Augustin, il n'attaque pas directement Augustin, parce qu'Augustin a une grande réputation, mais enfin, indirectement, on comprend bien que c'est Augustin qui est visé quand même. Ce que Prosper d'Aquitaine répond à Augustin, c'est que l'insistance sur la gratuité du don de Dieu, l'insistance sur la nécessité, la primauté du don de Dieu, ne doit pas jouer au détriment d'une insistance sur l'offre universelle du salut. Voilà. Le salut est offert à tous. Ça ne veut pas dire que tous l'accueillent. Mais du côté de Dieu, l'offre est universelle. Voilà ce que Prosper d'Aquitaine répond dans le courant du 5e siècle. Je vous ai donné aujourd'hui une feuille sur laquelle vous avez l'un des chapitres les plus importants de cet écrit de Prosper d'Aquitaine, et je voudrais le lire. En effet, dit Prosper, nous nous sommes appliqués à prouver, avec l'aide du Seigneur, que non seulement dans ces derniers jours, mais encore dans tous les siècles passés, la grâce de Dieu a été accordée à tous les hommes, avec une providence égale et une bonté générale, mais il opère selon des modes variés et des mesures diverses, soit de façon cachée, soit manifestement. Il est, selon la parole de l'apôtre, le sauveur de tous les hommes, des croyants surtout. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que Prosper d'Aquitaine va s'appuyer sur cette petite expression de saint Paul dans la première épître à Timothée, Dieu est le sauveur de tous les hommes, des croyants surtout. Il va s'appuyer sur ces quelques mots simplement pour tenter de trancher le débat. Il dit en effet, cette formule, si simple dans sa brièveté et si vigoureuse, si on la considère d'un regard serein, clôt toute la controverse dont nous avons traité. En disant en effet celui qui est le sauveur de tous les hommes, Paul affirme que la bonté de Dieu est générale, étendue à tous les hommes. Mais en ajoutant des croyants surtout, il montre qu'il existe une partie du genre humain qui, grâce au mérite d'une foi inspirée par Dieu, est conduite au salut suprême et éternel par des bienfaits particuliers, et cela sans aucune injustice d'un Dieu très équitable et très miséricordieux, dont le jugement dans ses façons de répartir ses dons ne doit pas être discuté avec arrogance, mais loué avec tremblement. C'est un texte très, très remarquable, hein, parce que, si vous voulez, Prosper d'Aquitaine essaye de surmonter le dilemme entre les pélagiens et les augustiniens, plus augustiniens qu'augustins, en quelque sorte. Mais en fait, ce qui était visé, c'est aussi Augustin lui-même vers la fin de sa vie. Il y a quand même une certaine formulation chez Augustin vers la fin de sa vie qui, encore une fois, laisse entendre que certains sont prédestinés à ne pas connaître le salut. Augustin n'a pas trouvé complètement le moyen de concilier l'affirmation très juste de la gratuité du don de Dieu avec l'affirmation de l'universalité de l'offre du salut. Augustin a cru de bonne foi qu'en affirmant la primauté et la nécessité absolue de la grâce de Dieu, on devait par le fait même restreindre le nombre des sauvés. Bon, Augustin a compris cela de façon limitée. Mais attention, au XVIIe siècle, un certain Jansénus, qui va être un grand lecteur de saint Augustin, va durcir la pensée de saint Augustin. Et pour lui, pour Jansénus, au XVIIe siècle, il sera clair qu'en effet, il y aura très peu de sauvés. Parce que pour Jansénus, eh bien, l'insistance sur la nécessité de la grâce empêche de penser l'universalité du salut. Or, ce que Prosper d'Aquitaine répond dès le 5e siècle, après la mort d'Augustin, quelques années après, ce qu'il répond, c'est que contrairement à ce que laissent penser certaines formules d'Augustin vers la fin de sa vie, contrairement en tout cas à ce que pensera plus tard Jansénus, l'universalité du salut, ou plutôt l'offre universelle du salut, n'est pas contradictoire avec l'affirmation de la grâce divine. Voilà. Donc son appui scripturaire est très très restreint. Simplement la formule paulinienne, le sauveur de tous les hommes, des croyants surtout. Dieu est le sauveur de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça fait partie de l'enseignement de l'Écriture. Donc de quel droit pouvons-nous dire que certains sont prédestinés à ne pas être sauvés ? Alors que l'Écriture formellement enseigne l'offre universelle du salut. Alors, en même temps, Paul dit, Dieu est le sauveur de tous les hommes, des croyants surtout. Prosper comprend que dans cette humanité à laquelle est offert universellement le don du salut, dans cette humanité, il y a un groupe. Un groupe qui a bénéficié d'un don spécial. C'est évidemment le groupe de ceux qui ont connu le Christ et qui ont accueilli le Christ dans la foi. Voilà. Mais voyez bien, le raisonnement de Prosper, c'est que, certes, on ne peut pas s'appuyer sur l'idée de l'offre universelle du salut pour ne pas reconnaître la spécificité de l'Église, du groupe des chrétiens en tant qu'il a reçu une grâce spéciale, la connaissance du Christ. mais qu'inversement, on ne peut pas s'appuyer sur l'existence de ce groupe particulier que sont les disciples du Christ pour nier l'universalité de l'offre du salut. En réalité, la formule paulinienne invite à tenir l'une et l'autre affirmation. On pourrait dire, il y a du coup un piège. C'est que ces croyants, ce groupe restreint au sein de l'humanité, ce groupe restreint qui a bénéficié d'une grâce particulière, d'une grâce spéciale, à savoir la connaissance du Christ qui est le chemin vers le Père. Il y a le risque que ce groupe, du coup, se dise, bah, pour nous c'est gagné, pas de souci. Nous sommes élus, le peuple élu, sacerdoce royal, vous connaissez ces textes, dans le premier épître de Pierre. C'est pourquoi, peu après, dans le même écrit, Prosper prend soin d'ajouter, attention, ce n'est pas parce que ce groupe a été choisi pour être justement bénéficiaire de la connaissance spécifique du Christ, chemin vers le Père, ce n'est pas pour cette raison que ce groupe doit s'enorgueillir, faute de quoi il se mettrait de lui-même dans une situation de perdition. Mais c'est un écrit tout à fait extraordinaire, hein, parce que à la fois l'écrit fait droit au statut original, spécifique, des disciples du Christ dans l'histoire de l'humanité, et en même temps, il met en garde contre la tentation de l'orgueil qui pourrait du coup s'emparer de cette nation sainte, comme dit saint Pierre, ou de ce peuple élu, comme dit encore saint Pierre. Voilà donc la réflexion de Prosper qui vise vraiment à dirimer, à trancher le débat entre Augustin et Pélage. Alors, j'ajoute un dernier mot clore cette longue deuxième partie sur Pélage et Augustin, un dernier mot, c'est que à travers tout cela, vous voyez bien que je ne parle plus de la divinisation dont j'ai tant parlé à propos des pères grecs. Je n'en parle plus. Ça ne veut pas dire qu'Augustin n'en parle pas. Ça ne veut pas dire que les pères latins n'en parlent pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un tournant. Et que à partir de cette controverse entre Augustin et Pélage, la problématique du salut comme divinisation, hein, tel que je l'ai développé à propos des pères grecs, passe un peu à l'arrière-plan. Et ce qui devient premier, ce qui passe au premier plan dans l'Occident, alors que les pères grecs orientaux continuent à parler surtout du salut en termes de divinisation, mais dans l'Occident, ce qui passe au premier plan, ce qui devient premier, c'est la question du salut comme rédemption par rapport au péché originel et par rapport au péché personnel. C'est ça qui devient premier. Et évidemment, c'est lourd de conséquences, parce qu'on peut dire qu'en gros, toute la tradition occidentale latine ultérieure va aborder le salut principalement sous cet angle. Le salut comme libération de la faute, le salut comme rédemption par rapport au péché. Ce qui est juste d'ailleurs, mais ce qui est partiel, parce qu'il ne faut pas oublier ce que disaient les pères grecs. Le salut, ce n'est pas simplement à comprendre comme la rédemption ou la libération par rapport au péché. Le salut, c'est à comprendre positivement, comme le don de la vie. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, disait saint Irénée. Je rappelle les textes des pères grecs que je citais l'autre jour. Donc, on peut dire que ce débat, Augustin Pélage, il est essentiel parce que c'est un débat qui va engager pratiquement toute l'histoire ultérieure de l'Occident. Anselme au Moyen-Âge est incompréhensible sans ce débat Augustin Pélage. Luther, dont je vais bientôt parler, Luther et le Concile de Trente, XVIe siècle, incompréhensible si on ne le situe pas par rapport à ce débat d'Augustin et Pélage. Et ça va durer jusqu'au XXe siècle. Karl Barth, Henri Bouillard, enfin, les théologiens contemporains vont, en Occident vont se situer toujours par rapport à ce débat Augustin Pélage. C'est surtout en fait par le biais du dialogue œcuménique, grâce à une meilleure connaissance mutuelle entre l'Occident et l'Orient, que nous avons appris depuis quelques décennies à redécouvrir davantage aussi la tradition orientale, l'insistance orientale sur le salut comme divinisation. Une théologie complète du salut devrait faire droit à la fois à la perspective latine du salut comme rédemption ou libération du péché et à la perspective orientale, grecque surtout, du salut comme divinisation, comme don, comme entrée dans la communion à la vie divine. Voilà. Je ne sais pas si, donc, sur ce long chapitre, Augustin, Pélage, et puis ce qui s'est passé après la mort d'Augustin, je ne sais pas s'il y a une autre question. Je peux essayer d'y répondre parce que c'est un point tout à fait essentiel. À peu près clair, on peut avancer. Alors, nous allons simplement aborder, enfin amorcer, disons, le troisième point, le troisième temps. Donc, nous quittons l'époque des pères de l'Église, nous arrivons au Moyen-Âge. Troisième temps, je vais m'arrêter sur un homme dont la réflexion sur le salut a été très importante, à savoir saint Anselme. Bien sûr, pour le Moyen-Âge, je pourrais aussi m'arrêter sur saint Thomas d'Aquin, sur saint Bonaventure, sur bien d'autres auteurs. Mais quand même, pour le Moyen-Âge, sur la question du salut, on peut dire que la réflexion d'Anselme a eu une importance toute particulière. Et d'ailleurs, on voit bien que cela a été perçu à l'époque moderne, puisque l'époque moderne, l'époque contemporaine, un certain nombre de théologiens de grande importance, comme Karl Barth, par exemple, se sont explicitement situés par rapport à Anselme. Karl Barth a écrit tout un livre sur saint Anselme. Anselme était moine, abbé de l'abbaye du Bec, l'abbaye du Bec-et-Loin, donc dans le département de l'Eure, au nord d'Évreux, le Bec-et-Loin. Anselme était né en 1033 et il est mort en 1109. Donc c'est pour l'essentiel un homme du XIe siècle et tout début XIIe siècle. Moine bénédictin, abbé bénédictin de l'abbaye du Bec-et-Loin, et il est devenu archevêque de Canterbury en 1093. Donc il a quitté l'abbaye du Bec-et-Loin, à cette époque-là, en 1093, pour devenir archevêque de Canterbury, en Angleterre. Anselme est quelqu'un qui a produit une œuvre théologique tout à fait importante et nous avons désormais la chance d'une traduction presque intégrale en français moderne de cette œuvre de saint Anselme. Ça s'appelle Les œuvres, œuvre complète de saint Anselme. C'est une entreprise qui a été dirigée par le père Michel Corbin. Et dans cette œuvre importante de saint Anselme, il y a surtout un ouvrage qui doit nous retenir aujourd'hui. C'est un ouvrage qui s'intitule en latin « Cur Deus Homo ». J'ai mis le titre latin sur la feuille du plan. « Cur Deus Homo ».« Cur Deus Homo », même si on n'a pas fait beaucoup de latin, c'est facile à comprendre. « Pourquoi Dieu homme ?»« Pourquoi Dieu homme ?»« Pourquoi Dieu est-il devenu homme ?» Et c'est vraiment cet écrit que je vais privilégier parce que, comme vous allez voir, il est tout à fait important sur la question du salut. Je voudrais simplement l'introduire pour le moment en disant comment cet ouvrage se présente. Il s'agit d'un dialogue, un ouvrage en forme de dialogue. Dialogue entre un certain Boson, B-O-S-O-N, et Anselme lui-même. Anselme répond aux questions ou aux objections de Boson. Alors, nous allons voir, avant de nous arrêter pour la pause, nous allons voir simplement les objections de Boson, et puis, après la pause, on verra comment Anselme répond à ces objections. Donc, je vous propose de prendre la feuille intitulée « Extrait du Cur Deus Homo, pourquoi un Dieu homme ?» Boson exprime donc des objections à Anselme. Il dit à Anselme, voilà, il y a un certain nombre de chrétiens qui croient, qui sont vraiment chrétiens, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils croient. Et en particulier, ils ne comprennent pas ce qui a trait au salut. Et la question fondamentale que soulève Boson, plutôt l'objection fondamentale qu'il transmet à Anselme, c'est celle-ci. Comment peut-on justifier cette histoire du salut qui fait que le Fils de Dieu est allé jusqu'à mourir sur la croix? Voilà l'objection de Boson. On dit, ben voilà, nous disons dans la foi, nous croyons, enfin, le Fils de Dieu non seulement est devenu homme, mais il est mort sur la croix. Et il nous a sauvés par cette voie. Hein, pour nous, comme on dit dans le credo, hein, pour nous et pour notre salut. Il est descendu, il s'est fait homme, et il est mort sur la croix. Pour nous et pour notre salut. Alors l'objection de Boson, qui se fait le porte-parole de beaucoup d'autres chrétiens, c'est de dire à Anselme, vraiment, c'est difficilement compréhensible. Comment justifier, comment tenir pour nécessaire le fait que l'histoire du salut ait pu passer par ce chemin si paradoxal de la mort sur la croix. Le Fils de Dieu mort sur la croix. Qu'est-ce qui autorise à dire que cette mort du Fils de Dieu sur la croix était nécessaire pour le don du salut à l'humanité? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est quand même très très gênant pour l'image même de Dieu, pour la représentation que nous avons de Dieu? C'est une objection importante. Et je dirais, ce n'est pas seulement une objection de Boson à son époque, c'est une objection que vous trouvez vraiment à l'époque moderne et à notre propre époque. C'est une objection qui, elle n'est pas forcément formulée dans ces termes, mais elle est très très présente. Comment tenir la nécessité de cette incarnation, cur Deus homo, pourquoi Dieu homme, comment tenir la nécessité de cette incarnation qui a conduit le Fils de Dieu jusqu'à l'extrémité de la croix. Alors, lisons quelques extraits justement de l'intervention de Boson. Voici ce que disent donc les chrétiens en question, qui voudraient comprendre mais qui ne comprennent pas. Bon, ils répondent, si vous dites que Dieu n'a pas pu faire tout cela par un seul commandement, vous dites qu'il a créé toutes choses en leur commandant. Vous vous contredisez vous-même en le faisant impuissant. Vous voyez de l'argument, hein ? L'objection plutôt. L'objection consiste à dire, si vous, chrétien, vous dites que, ou si vous, Anselme, hein, si vous, Anselme, vous dites que Dieu n'a pas pu faire tout cela, c'est-à-dire cette incarnation, la mort sur la croix, si vous dites que Dieu n'a pas pu faire tout cela par un seul commandement, en même temps, vous dites qu'il a créé, que Dieu a créé toute chose, en commandant à toute chose. Vous contredisez vous-même. Si vous dites que Dieu n'a pas pu faire tout ce qu'il a fait avec l'incarnation et la mort sur la croix, alors vous laissez entendre que Dieu est impuissant. Ou bien, si vous avouez que Dieu a pu faire cela, mais, alors comprenons, le texte est très dense en fait. Boson veut dire, si vous avouez que Dieu aurait pu faire autrement, si vous avouez que Dieu aurait pu éviter de passer par l'incarnation et par la croix, mais qu'il n'a voulu que de cette manière, autrement dit qu'il n'a voulu que l'incarnation et la croix comme chemin du salut, alors comment pouvez-vous montrer qu'il est sage quand vous affirmez qu'il a voulu souffrir, sans aucune raison, des choses si inconvenantes? Un peu plus loin, nous tournons encore sur cette question. De quelle manière pouvons-nous montrer que cette mort, la mort du Christ sur la croix, fut raisonnable est nécessaire. Autrement, semble-t-il, ni le Fils ne devait la vouloir, ni le Père contraindre ou permettre. Nous cherchons en effet pourquoi Dieu n'a pas pu sauver l'homme autrement. Voilà, la question ici est formulée de la manière la plus claire. Nous cherchons pourquoi Dieu n'a pas pu sauver l'homme autrement qu'en passant par l'incarnation et par la croix. Ou, s'il a pu, s'il était en son pouvoir de sauver l'homme autrement que par la croix, pourquoi il a voulu de cette manière? Pourquoi il a voulu que ça passe par la croix? Et il semble qu'il ne convienne pas à Dieu d'avoir sauvé l'homme de cette manière, que n'apparaisse pas non plus la valeur de cette mort pour le salut de l'homme. Bien étrange que Dieu se délecte ainsi. Ou bien, bien étrange, que Dieu ait si bien besoin du sang de l'innocent que, sans sa mise à mort, il ne veuille ou ne puisse épargner le malfaisant. C'est impressionnant. Boson anticipe sur une certaine image de Dieu qui sera souvent véhiculée à l'époque moderne. L'image d'un Dieu qui aurait besoin du sang de son fils, et de la mort de son fils sur la croix pour accomplir le salut. Dernier extrait enfin. Mais comment pourrons-nous prouver, c'est toujours Boson qui parle, comment pourrons-nous prouver qu'il est juste ou raisonnable que Dieu ait ainsi traité, ou permis que soit traité, cet homme que le Père a appelé son fils bien-aimé, en qui il s'est complu? C'est pas possible, on dit dans l'Écriture, hein, le fils de Dieu est le fils bien-aimé du Père. Et voici que le Père livre son fils à la croix. Comment comprendre ça? Incompréhensible. Hein? Vous voyez que c'est radical, hein, l'objection de Boson. Et il continue, par quelle justice livrer l'homme le plus juste de tous à la mort pour le pécheur? Hein? Quelle est cette justice de Dieu qui consiste à livrer l'homme le plus juste de tous pour le pécheur? Si un homme condamnait un innocent pour libérer un coupable, ne le jugerait-on pas à condamner? La chose, semble-t-il, renvoie à la même inconvenance que plus haut. Car si Dieu n'a pas pu sauver les pécheurs autrement qu'en condamnant le juste, où est sa toute-puissance? S'il n'a pas pu faire autrement, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. Inversement, si Dieu aurait pu procéder autrement, mais qu'il ne l'a pas voulu, comment défendrons-nous sa sagesse et sa justice? Ce qui est en cause, pour résumer, c'est ou bien la toute-puissance de Dieu, ou bien sa justice. Si Dieu n'a pas pu faire autrement que passer par la croix de son Fils pour sauver l'humanité, c'est qu'il n'est pas tout-puissant, puisqu'il n'a pas pu faire autrement. Par contre, si Dieu avait la possibilité de faire autrement, mais qu'il ne l'a pas voulu, c'est qu'il n'est pas juste. C'est serré, hein? L'objection est serrée. Ce qui est en cause, c'est ou bien la toute-puissance de Dieu, qui est moins puissant qu'on ne croyait, ou bien la justice de Dieu, qui est moins juste qu'on ne croyait. Que va répondre Anselme à cela? C'est ce que nous verrons après la pause. Alors, essayons de voir donc comment Anselme répond à Boson. Donc nous avons en tête l'objection qui est rapportée par Boson. Dans l'histoire du salut, ou bien c'est la toute-puissance de Dieu qui est en cause, ou bien c'est sa toute justice. Réponse d'Anselme. Alors, j'ai donné sur le texte, la feuille recto verso que vous avez sous les yeux, j'ai donné au fond les textes principaux qui permettent de reconstituer l'argumentation d'Anselme, une argumentation assez serrée que vous allez voir. Hein, où Anselme est un esprit très très logique, hein, et il argumente de façon aussi serrée que les contradicteurs. Donc, première réponse d'Anselme, vous l'avez dans l'extrait donc du livre 1, chapitre 8, je lis, « Ce n'est pas à la manière dont tu sembles l'entendre que Dieu a traité cet homme, Jésus, ou qu'il a livré à la mort l'innocent pour le coupable. Ce n'est pas en effet contre son gré que Dieu l'a contraint à la mort ou permis qu'il soit tué, mais lui-même, de son plein gré, a supporté la mort pour sauver les hommes. » Alors, attention, ce n'est pas encore toute la réponse d'Anselme, hein, nous avançons pas à pas. Mais c'est déjà un premier élément de réponse, hein, puisque l'objection consistait à dire, mais comment comprendre que le Père, que Dieu le Père, ait ainsi voulu la mort de son fils sur la croix? Premier élément de réponse de la part d'Anselme, si Dieu a agi ainsi vis-à-vis de son fils, ce n'est pas contre le gré de son fils. Voilà. Ce n'est pas contre la liberté de son fils. Mais c'est lui-même, le fils, de son plein gré, qui a supporté la mort pour sauver les hommes. Voilà un premier élément de réponse qui est à entendre et qui est très important. Deuxième élément de réponse de la part d'Anselme, c'est dans le paragraphe suivant, le paragraphe 9. Dieu n'a donc pas contraint à mourir le Christ en qui il n'y eut aucun péché. Mais lui-même, de son plein gré, a supporté la mort, non par une obéissance qui aurait exigé qu'il abandonne la vie, mais à cause de l'obéissance qui exigeait qu'il garde la justice en laquelle il a persévéré avec tant de force qu'il en a encouru la mort. En fait, c'est la reprise du même argument, mais un peu plus développé, un peu plus explicité. Dieu n'a pas contraint à mourir le Christ. C'est très très important. Parce que ce qui va être très très gênant souvent dans la manière de comprendre le salut, c'est qu'on va être tenté par une sorte de télescopage en raison d'une interprétation littérale de la formule paulinienne « Dieu a livré son fils ». C'est la formule qu'on a en effet chez saint Paul, hein. « Dieu a livré son fils ». Le problème, c'est qu'on risque d'interpréter cette formule de façon immédiate, au sens où justement le fils n'aurait rien eu à dire, aurait été complètement prisonnier de la volonté de son père. Et pourquoi Anselme insiste sur le fait qu'en réalité, le fils était libre et que c'est de son plein gré qu'il a supporté la mort. Alors, il a été obéissant. Le fils a été obéissant jusqu'à mourir sur la croix. C'est vrai. Mais de quelle obéissance s'agissait-il ? Anselme nous le dit dans le texte que je viens de lire. Il s'agissait d'une obéissance pour que le Fils puisse être juste jusqu'au bout. C'est ça la pointe. Ce n'était pas obéir à la volonté d'un Dieu qui, par courroux, par colère, aurait voulu la mort de son Fils. Mais c'était obéir à la justice de Dieu. Obéir à un Dieu juste en étant soi-même juste. Autrement dit, si Dieu a livré son Fils, comme dit saint Paul, il faut comprendre qu'en fait, Dieu le Père a voulu la mort du Christ uniquement comme chemin du salut. Plus exactement, pour éviter ce que le mot « a voulu la mort » peut avoir de choquant pour nos oreilles, Dieu, le Père, a accepté que son fils aille jusqu'à la mort. C'est pas lui qui a provoqué la mort tout de même. C'est ça que Anselme répond. C'est qu'on n'a pas Dieu le Père qui a voulu la mort de son fils. La mort, la croix, ce n'est pas Dieu qui l'a plantée sur le Golgotha. Ce sont les hommes, jusqu'à nouvel ordre. C'est la croix, c'est quand même l'effet du péché, de la violence des hommes. Donc c'est pas Dieu qui a voulu la mort de son fils. Mais dans la situation concrète dans laquelle se trouvait Jésus, il n'y avait pas d'autre moyen que d'être fidèle à Dieu et obéissant à la justice de Dieu que de consentir de son plein gré à aller jusque-là, par amour de l'humanité. Voilà le déplacement qu'Anselme fait subir à son interlocuteur. Mais surtout, il y a dans l'argumentation d'Anselme en réponse à l'objection, une autre idée capitale que nous allons lire dans le paragraphe suivant. Mais je la résume déjà, cette idée, avant de lire le texte. C'est l'idée que pour restaurer le genre humain, pour que l'être humain soit rétabli dans sa dignité, par-delà le drame du péché, pour cela, il fallait que l'homme fît quelque chose de grand, de digne, de saint. Voilà l'idée, l'idée absolument centrale d'Anselme. Et je vais maintenant lire le paragraphe, la suite du paragraphe 9, dans laquelle justement Anselme expose cette idée. Là où Jésus dit « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux, et là où le Fils dit « Si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite », il signifie par sa volonté le désir naturel d'une vie sauve, par quoi la chair de l'homme fuyait la douleur de la mort. Très important. Il y a une volonté humaine de Jésus qui, justement, avec toutes les ressources de son humanité, a souhaité pouvoir échapper à la mort. Que cette coupe passe loin de moi. Mais en scène continue, par la volonté du Père, hein, que ta volonté soit faite, par la volonté du Père, Jésus ne dit pas que le Père aurait préféré la mort du Fils à sa vie, mais il dit que le Père ne voulait pas que soit restauré le genre humain si l'homme ne faisait pas quelque chose d'aussi grand que l'était cette mort. L'idée que le salut passait par là. Le salut, ça ne pouvait pas être simplement Dieu qui magiquement restaure le genre humain dans sa dignité première. Pour que le salut puisse être complet et vraiment effectif, puisqu'il s'agissait du salut de l'homme, il fallait qu'il y ait au moins un homme de notre humanité qui puisse accomplir quelque chose de grand, de digne. Cet homme, ce fut le Christ. Bien sûr, le Christ était inséparablement le Fils de Dieu. Mais tout en étant le Fils de Dieu, il était vraiment homme. Alors, nous avons là une idée tout à fait essentielle pour Anselme. C'est l'idée que le pardon de Dieu ne suffit pas. Un salut directement octroyé par Dieu à l'humanité ne suffit pas, n'aurait pas suffi. Ça n'aurait pas suffi parce que pour qu'il y ait salut, il fallait qu'il y eût du côté de l'homme lui-même quelque chose qui correspondît. Je suis obligé d'employer des imparfaits du subjonctif à cause de la concordance des temps, c'est un peu compliqué, mais on ne peut pas faire autrement. C'est un raisonnement cher en scène. Il fallait, pour que le salut puisse s'accomplir, il ne fallait pas simplement que Dieu intervint lui-même et par lui seul, mais il fallait qu'il trouvât un homme qui, avec toute son humanité, pût accomplir jusqu'au bout sa vie d'homme, au point même de mourir sur la croix. Voilà le raisonnement d'Anselme. Il y a une sorte de nécessité du côté de Dieu, certes, Dieu qui est l'auteur, la source du salut, mais il y a aussi une nécessité du côté de l'homme. Et Anselme, à l'époque qui est la sienne, au XIe siècle, exprime cela dans le langage suivant. Il fallait qu'il y ait une réparation venant de l'homme pour que l'offense faite à Dieu puisse être complètement pardonnée. C'est l'idée d'Anselme. Il fallait qu'il y ait une réparation du côté de l'homme. Il suffisait pas simplement qu'il y ait un acte unilatéral de la part de Dieu le Père, il fallait qu'il y ait en même temps une réparation venant de l'être humain. Alors, c'est compliqué, j'en conviens, ça peut nous paraître discutable, mais n'allons pas tout de suite à la discussion. Essayons pour le moment de bien comprendre l'argumentation d'Anselme. Et comme elle est de fait très serrée et très complexe, je vous propose de la suivre de manière précise. J'ai indiqué sur la feuille du plan les quatre jalons de l'argumentation d'Anselme. Premier jalon de son argumentation, tout péché doit être suivi d'une... Alors là, Anselme emploie un mot relativement nouveau dans la théologie, tout péché doit être normalement suivi d'une satisfaction ou d'une peine. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il faut se remettre dans la mentalité médiévale pour comprendre cela. Nous sommes, encore une fois, nous sommes au XIe siècle. l'époque des châteaux médiévaux, à l'époque où il y a les suzerains avec leurs vassaux. Voilà. Dans la mentalité médiévale, spécialement dans le haut Moyen-Âge, le vassal doit honneur, révérence à celui qui est le suzerain ou le souverain. Et si l'honneur du suzerain, si l'honneur du maître, du seigneur se trouve offensé, eh bien il faut que le vassal, celui qui est inférieur, puisse réparer l'offense qui a été faite. Alors, si vous voulez, c'est cet imaginaire qui joue, cet imaginaire médiéval qui est repris par Anselme et qui va être appliqué à la théologie du salut. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout à l'époque des pères de l'Église, c'est nouveau. C'est donc l'idée suivant laquelle le péché, c'est en quelque sorte l'honneur qui est offensé. Voilà. Quelqu'un me ment, eh bien, mon honneur est offensé. Voilà, c'est une manière qui peut nous surprendre aujourd'hui, une manière de parler du péché qui n'est pas très usuelle. Mais pour Anselme, c'était une évidence au Moyen-Âge. Le péché, c'est l'honneur qui est offensé. Alors, quand l'honneur est offensé, eh bien, celui qui a été offensé, il a besoin d'une réparation. Il faut qu'il y ait une réparation. Et la réparation, qu'est-ce que c'est? C'est que celui qui a commis l'offense doit rendre ce qui a été enlevé, ce qui a été ôté, il doit le rendre. Et dès lors, ce que Anselme va expliquer, c'est que dans le cas de l'humanité pécheresse, il y a une offense qui a été faite à Dieu et que l'offense qui a été ainsi faite doit être suivie d'une satisfaction, ce qu'il appelle une satisfaction. Il faut prendre le mot satisfaction au sens étymologique. Satisfaction, ça veut dire étymologiquement faire suffisamment. J'ai été offensé, eh bien, je dois en faire suffisamment, ou plutôt celui qui m'a offensé doit en faire suffisamment pour que l'offense soit réparée. Satisfaction. Alors, justement, vous présentez déjà la suite. Ce que Anselme va expliquer, c'est que précisément, dans le cas de l'économie du salut, de l'histoire du salut, la satisfaction ne peut pas être opérée par l'un d'entre nous, par l'un de cette multitude qui compose l'humanité pécheresse. Mais la satisfaction doit être néanmoins accomplie par un homme. Alors, elle va être accomplie justement par le Christ. Le Christ, qui lui n'est pas pécheur, puisqu'il a pris notre condition humaine en toute chose, excepté le péché, mais qui cependant, puisqu'il a pris notre condition humaine, va être en mesure de faire en quelque sorte à notre place cette réparation de l'offense qui a été infligée à Dieu le Père. Voilà le raisonnement d'Anselme. Alors, je lis un texte pour illustrer cela. Donc, c'est le paragraphe 15, c'est simplement une petite phrase, mais qui résume vraiment la pensée d'Anselme. C'est le premier jalon de son argumentation. Il est nécessaire que tout péché soit suivi ou bien d'une satisfaction ou bien d'une peine. Alors, je n'ai pas encore parlé de la peine. Je m'explique. Je reprends mon exemple. J'ai été offensé. C'est curieux, je me mets toujours du côté de celui qui a été offensé. Je pourrais me mettre du côté de celui qui offense. Bon, enfin, pédagogiquement, c'est plus simple pour moi. Bon, j'ai été offensé. Bien. Alors, il y a deux solutions. Celui ou celle qui m'a offensé, ou bien il ne répare rien. Mais dans ce cas, ce qu'il mérite, c'est une peine, une punition, un châtiment. Ou bien il veut échapper à cette peine ou à ce châtiment, mais dans ce cas, il faut qu'il satisfasse, qu'il en fasse assez pour réparer l'offense qu'il m'a faite. Voilà. C'est tout simplement cela que veut dire la formule d'Anselme. Il est nécessaire que tout péché soit suivi, ou bien d'une satisfaction, ou bien d'une peine. Alors, vous devinez la suite? L'humanité, toute l'humanité a péché. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Il n'y a que deux possibilités. Ou bien la peine, bien ça c'est terrible. Ça veut dire que l'humanité sera à jamais perdue. Ou bien, il faut que l'humanité satisfasse. répare l'offense. Et les pécheurs ne peuvent pas le faire. Mais il y a au moins un homme. Il faut qu'il y ait au moins un homme. Un, ça suffit. Il faut qu'il y en ait au moins un qui le fasse. Cet homme, c'est le Christ. Voilà. Premier jalon de l'argumentation d'Anselme. Alors, on passe maintenant au deuxième jalon. Je lis ma formule. Deuxième point dans le raisonnement d'Anselme. L'homme pécheur ne peut trouver le salut par ses propres forces. Voilà. Autrement dit, il vient de dire, il faut qu'il y ait réparation de l'offense ou il faut qu'il y ait satisfaction. Très bien. Mais le problème, c'est que dans le cas de l'humanité, ben voilà, l'être humain qui est pécheur ou l'humanité pécheresse ne peut pas trouver le salut par ses propres forces. Ça, c'est vraiment l'héritage d'Augustin contre Pélage. Alors, c'est ce que Anselme explique dans le paragraphe 22, le texte suivant. A, ça veut dire Anselme, c'est Anselme qui parle, qui répond à Boson, et dit « Ce n'est donc d'aucune autre manière que l'homme doit ou peut recevoir de Dieu ce que Dieu s'est proposé de lui donner, s'il ne rend pas à Dieu tout ce qu'il lui a ôté, en sorte que Dieu, ayant perdu par lui, recouvre de même par lui. Ce qui ne peut se faire autrement qu'ainsi. De même que, par un homme vaincu, Adam, toute la nature humaine a été corrompue et comme fermentée par le péché, avec lequel aucun homme n'est assumé par Dieu pour parfaire cette cité céleste, de même, par un homme victorieux, seront justifiés du péché autant d'hommes qu'il en faut pour compléter ce nombre que l'homme est fait pour compléter. Mais cela, l'homme pécheur ne peut aucunement le faire, car un pécheur ne peut justifier un pécheur. » Vous voyez le raisonnement. Il faut qu'il y ait réparation de l'offense, mais cette réparation, ce n'est pas un pécheur qui peut s'en charger, si je puis dire. Donc, il faut trouver un homme qui ne soit pas pécheur. Il y a un seul homme qui ne soit pas pécheur, c'est le Christ. J'anticipe un peu sur la suite, mais c'est pour montrer. Anselme, pas à pas, prépare sa conclusion. Troisième jalon dans le raisonnement d'Anselme. Je lis ma formule. La satisfaction est nécessaire à l'achèvement du dessein de Dieu sur l'homme. Parce qu'on pourrait dire, après tout, il n'y a pas d'homme qui puisse faire ça. Voilà, il n'y a pas d'homme qui puisse se charger de cette réparation de l'offense. Mais bon, tant pis, quoi. Il faut se résigner à un échec. Eh bien non. Non. Il faut qu'il y ait réparation. On ne peut pas se résigner à l'autre issue qui serait celle de la peine. Il faut qu'il y ait satisfaction. Il faut qu'il y ait réparation de l'offense. Pourquoi ? C'est là que, Anselme est très fort. Pourquoi ? Pas simplement parce que c'est nécessaire à l'homme, mais parce que c'est nécessaire au dessein de Dieu lui-même pour l'homme. Dieu veut le salut de l'homme. Alors, j'illustre cela. C'est le texte suivant, livre 2, paragraphe 5. Combien plus par suite, si Dieu fait à l'homme le bien qu'il a commencé, même s'il ne lui sied pas de faire défaut au bien commencé, donc combien plus devons-nous imputer le tout à sa grâce, puisqu'il l'a commencé pour nous, non pas pour lui qui n'a besoin de rien. Ce que l'homme allait faire ne lui était point caché quand il l'a fait. Et pourtant, en le créant dans sa bonté, il s'est de plein gré comme obligé à parfaire le bien commencé. C'est très beau, ça. Ça veut dire Dieu a créé l'homme libre. En créant l'homme libre, il savait que l'homme, éventuellement, pourrait mal user de sa liberté et tomber dans le péché. Mais comme c'est lui, quand même, Dieu, qui a pris l'initiative de créer, alors il s'est de plein gré comme obligé à parfaire le bien commencé. Il s'est de plein gré engagé à ne pas laisser l'homme se perdre, voilà, puisque justement la destinée, la communion de l'homme à la vie divine faisait partie de son dessein originel. Alors, Anselme continue, Dieu, enfin, ne fait rien par nécessité, puisqu'il n'est en aucune manière contraint ou empêché de faire quelque chose. Et quand nous disons qu'il fait quelque chose comme par nécessité d'éviter un déshonneur, ce qu'assurément il ne craint pas, il faut plutôt entendre qu'il le fait par nécessité de garder l'honneur. Autant dire que cette nécessité n'est autre que l'immutabilité de sa fidélité, qu'il tient de lui-même et non pas d'un autre, et que pour cela, elle est dite improprement nécessité. Disons cependant qu'il est nécessaire que la bonté de Dieu, en raison de son immutabilité, mène à perfection dans l'homme ce qu'elle a commencé, bien que soit grâce tout le bien qu'elle fait. Alors le texte est un peu difficile, mais il est d'une très grande profondeur. Parce que le raisonnement d'Anselme consiste à dire ceci. Dieu ne veut pas se résigner à ce que l'offense faite par l'humanité aboutisse à la condamnation de l'humanité. Dieu veut qu'il y ait réparation de l'offense. Réparation de l'offense et donc satisfaction vis-à-vis de Dieu. Dieu veut cela. Dieu le veut par nécessité. Il y a une nécessité pour Dieu que cette réparation, cette satisfaction puisse advenir. La satisfaction est nécessaire à l'achèvement du dessein de Dieu. Mais alors, en disant cela, on voit l'objection possible. Comment dire que l'achèvement, comment dire que la satisfaction ou la réparation de l'offense est nécessaire au dessein de Dieu, alors que Dieu est libre et que, comme le dit Anselme, il n'a besoin de rien. La réponse d'Anselme, c'est de dire que Dieu, dès lors qu'il crée l'homme librement, s'engage à permettre à l'homme d'aller jusqu'au bout de sa vocation. Alors, il y a bien une nécessité en ce sens, mais c'est une nécessité qui, en quelque sorte, est inhérente à l'amour même de Dieu. C'est une nécessité qui ne s'oppose pas à la gratuité, mais qui est inhérente à l'amour même de Dieu. Voilà le raisonnement d'Anselme. D'où le quatrième et dernier temps de l'argumentation, qui, je crois, est bien préparé hein, par les trois raisonnements précédents. Le quatrième temps de l'argumentation, je vous ai mis la formule sur la feuille, hein. Seul un Dieu homme peut accomplir la satisfaction qui sauve l'homme. Et c'est la réponse à la question de l'ouvrage, hein, cours Deus homo, pourquoi un Dieu homme? Réponse, seul un Dieu homme peut accomplir la satisfaction qui sauve l'homme. Mais vous voyez, c'est une réponse qui ressort très naturellement des trois raisonnements précédents. Un, l'humanité a offensé Dieu. Deux, il n'y a que deux issues possibles. Ou bien la peine, c'est-à-dire la condamnation de l'humanité, ou bien au contraire la réparation, la satisfaction. Trois, Dieu ne consent pas à ce que l'issue soit la peine. Dieu veut que l'issue soit la réparation, la satisfaction. Et Dieu veut même cela nécessairement, non pas au titre d'une nécessité qui serait une contrainte extérieure pour Dieu, mais d'une nécessité qui est inhérente à son amour même. Quatre, cette satisfaction ou cette réparation de l'offense, il faut qu'elle soit accomplie par un homme. Mais aucun homme pécheur ne peut l'accomplir. Cinq, nous arrivons à notre conclusion. Qui peut accomplir cette satisfaction ? Un homme qui n'est pas pécheur. Un seul homme qui ne soit pas pécheur, c'est le Christ, qui est inséparablement le Fils de Dieu. Il fallait donc que le Fils de Dieu devint homme, homme non pécheur, pour pouvoir accomplir cela même qu'aucun homme de l'humanité ne pouvait accomplir par ses propres forces, à savoir la réparation de l'offense, la satisfaction vis-à-vis de Dieu. Alors lisons le texte. C'est le paragraphe 6 puis le paragraphe 11. S'il est donc nécessaire, comme il est établi, que la cité d'en haut soit menée à perfection avec des hommes, et si la chose n'est possible que si se fait la satisfaction susdite, et que nul ne peut faire sinon Dieu, et que nul ne doit faire sinon l'homme, il est nécessaire qu'un Dieu homme la fasse. Et cette satisfaction, elle ne peut être faite que par Dieu. Mais en même temps, il faut qu'elle soit accomplie par un homme. Il faut donc un Dieu devenu homme pour l'accomplir. Alors, Boson, celui qui avait transmis les objections, intervient à ce moment-là. Il dit « Béni soit Dieu, car voici que nous avons trouvé quelques grandes choses sur ce que nous cherchons. Poursuis donc comme tu as commencé, et j'espère que Dieu nous aidera. » Alors, Anselme continue, il reprend la parole, et un peu plus loin, il dit ceci. « Si l'homme a péché dans l'euphorie, ne convient-il pas qu'il satisfasse dans l'âpreté? Et s'il a été vaincu par le diable pour le déshonneur de Dieu, en péchant si facilement que péché plus facile ne se pût, n'est-il pas juste que l'homme qui satisfera pour le péché vainque le diable pour l'honneur de Dieu dans une difficulté si grande que plus grande ne se puisse? N'est-il pas digne, dans la mesure où s'est ôté à Dieu en péchant de telle manière qu'il ne put s'ôter davantage, n'est-il pas digne qu'il se donne à Dieu en satisfaisant de telle manière qu'il ne puisse se donner davantage ? » Un texte à nouveau très serré, qui repose sur une série de comparaisons. Voilà, l'homme ne pouvait pas pécher plus qu'il n'a pu pécher. Donc il faut que la satisfaction, la réparation soit au moins équivalente et même supérieure. Il faut donc que l'homme, plutôt le Dieu devenu homme, satisfasse ou répare l'offense d'une manière telle qu'il ne puisse pas le faire davantage, de manière maximale possible, pour que le péché soit précisément vaincu. Voilà. Alors, on a ici une argumentation impressionnante. Vous sentez bien que on a ici un effort puissant, du point de vue spéculatif, un effort très très puissant, pour, au fond, penser le salut, pour penser la nécessité du salut, et pour répondre ainsi à la question à l'objection qui était formulée, pourquoi un Dieu devenu homme? Pourquoi fallait-il que le salut passe par un homme, et en plus, par la mort de cet homme sur la croix? Toute l'argumentation d'Anselme est, au fond, une prodigieuse tentative pour essayer de répondre philosophiquement, spéculativement, à cette question de manière la plus rigoureuse qui soit, comme j'ai essayé de le montrer. Alors, comment entendre cette pensée, donc une pensée qui remonte loin, au XIe siècle? J'ai bien dit au passage, il faut évidemment la situer dans son contexte. Il y a l'imaginaire médiéval, la relation du vassal au suzerain, de l'offense faite au suzerain, de la réparation qui lui est dit. Il y a tout ça qui contribue à expliquer la démarche d'Anselme. Mais en même temps, on voit bien que la pensée d'Anselme est d'une profondeur telle qu'elle déborde le contexte dans lequel elle s'est exprimée. Et c'est ce qui explique qu'elle a eu une très très grande postérité, pour le meilleur ou peut-être pour le moins bon. Je commence par le moins bon. Le moins bon, c'est qu'à l'époque moderne, on a pu parfois s'autoriser d'Anselme pour développer ou accréditer l'idée d'un Dieu qui aurait besoin de la souffrance de Jésus-Christ sur la croix pour accomplir sa justice. Ce qui fausse la véritable pensée d'Anselme. On comprend que la pensée d'Anselme ait pu donner lieu à cette dérive. Disons que la pensée d'Anselme risquait de conduire là, à cause de son insistance sur l'image de l'honneur offensé, de la réparation qui est due, de la nécessité pour Dieu d'une telle réparation, etc. Mais l'idée d'Anselme n'était pas du tout d'accréditer l'image d'un Dieu qui aurait besoin de la souffrance de son fils pour accomplir le salut. Ça, c'était plutôt l'objection de Boson. Et c'est l'objection à laquelle Anselme a essayé de répondre. Donc ça, c'est l'effet, disons, nocif de la pensée d'Anselme, telle qu'elle a été reçue parfois à l'époque moderne. Au XXe siècle, cependant, il y a eu des tentatives tout à fait remarquables pour réhabiliter la pensée d'Anselme par-delà les méprises ou les déviations auxquelles elle avait donné lieu, et en particulier ces tentatives ont été représentées par le théologien protestant Karl Barth et par le théologien catholique Urson Balthasar. Alors justement, si on en vient à ces jugements contemporains sur l'œuvre d'Anselme, que constate-t-on? Eh bien, au XXe siècle, deux types de jugements très contrastés. Et je vous présente là les positions extrêmes. D'un côté, première lecture, la lecture critique de Louis Bouillet, le théologien oratorien, qui est très sévère vis-à-vis de la pensée d'Anselme. Il dit, la pensée d'Anselme, on a l'impression qu'elle veut déduire rationnellement le contenu de la foi à partir d'une série d'argumentations logiques. La pensée d'Anselme repose sur des postulats non critiqués, comme par exemple l'idée que l'incarnation serait comme une manière de satisfaire à l'honneur divin. Et puis, Louis Bouillet objecte à Anselme, il dit « Que signifie une satisfaction que Dieu s'offre à lui-même ?» On comprend que Dieu a été offensé par le péché de l'humanité, mais qu'est-ce que ça veut dire de laisser entendre que Dieu veut s'offrir à lui-même une réparation, s'offrir à lui-même une satisfaction? Plus radicalement, Louis Bouillet dit « La pensée d'Anselme laisse paraître une image de Dieu comme celle d'un prince souverain, jaloux de ses prérogatives et soucieux de son honneur. » Donc voilà, une critique très sévère de la pensée d'Anselme chez ce théologien catholique, Louis Bouillet. Mais à l'extrême opposé, autre appréciation, au contraire très positive de la pensée d'Anselme, par, alors je disais, Karl Barth du côté protestant, mais aussi par des théologiens catholiques, en particulier Hans Urson Balthasar et plus récemment Michel Corbin. Michel Corbin qui a beaucoup écrit sur l'œuvre d'Anselme. Alors, je me contente simplement de résumer la pensée de Urson Balthasar à propos d'Anselme. Balthasar dit en réalité que au centre de la pensée d'Anselme, il y a la contemplation de la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu le Père dans le Fils souffrant. La théologie d'Anselme, dit Balthasar, n'a rien de juridique, contrairement aux apparences. La pensée d'Anselme, contrairement à ce qu'on lui a fait dire à l'époque moderne, refuse l'idée perverse d'un sacrifice de juste innocent dans lequel Dieu le Père se complairait. Selon Balthasar, Anselme met en fait l'accent sur l'alliance. Même s'il n'emploie pas ce langage, Anselme, selon Balthasar, retrouve la problématique biblique de l'alliance entre Dieu et l'humanité, problématique selon laquelle Dieu désire trouver en l'homme un partenaire dont l'amour corresponde à son propre amour. Et c'est pour ça qu'il demande réparation ou satisfaction. Pour une telle libération, pour une telle réparation, il ne fallait rien moins qu'un Dieu devenu homme. Et c'est vraiment saisissant de voir comment la même pensée d'Anselme a pu donner lieu à des lectures aussi contrastées au XXe siècle. Personnellement, je pense qu'il faut à la fois entendre l'avertissement de Louis Bouillet. Je crois qu'il a raison, je crois qu'il a raison de mettre en garde contre certaines perversions possibles dans, dans la représentation d'un Dieu à qui l'homme devrait rendre satisfaction, la perversion, l'image perverse d'un Dieu qui aurait besoin de la souffrance de l'homme Jésus pour que son honneur soit réparé. Je crois que Louis Boyer a parfaitement raison de dénoncer ces lectures, ces images, mais je pense aussi que sa critique ne rend pas tout à fait justice à la vraie pensée d'Anselme, mais je crois que Balthazar, par contre, y rend vraiment justice. Je crois en réalité que quoi qu'il en soit de la pensée d'Anselme, ce qui peut nous faire le plus avancer dans notre réflexion sur ce qui est au cœur du sujet, c'est la réflexion d'un autre théologien catholique, Yves de Montchœuil. Yves de Montchœuil, vous savez, c'est donc un théologien qui est né en 1900 et qui est mort prématurément. Il est mort en 1944 parce qu'il avait voulu rejoindre un groupe d'étudiants dans le Vercors et il a été arrêté, il a été fusillé à Grenoble en juillet 1944. Et il était professeur à l'Institut catholique de Paris. Et il avait donné un certain nombre de conférences sur le Christ. Et dans l'une de ces conférences, justement, c'est des conférences qui ont été publiées sous le titre « Leçon sur le Christ », dans l'une de ces conférences, justement, il aborde la question de la satisfaction. Voilà. Et il dit ceci. « Revenons sur la satisfaction afin de lui donner sa véritable place. » La satisfaction est bien, en un sens, la réparation du péché, mais elle n'est pas quelque chose qui précède le pardon et qui le conditionnerait. Elle est quelque chose qui le suit. Ce n'est pas une exigence de l'amour de Dieu, mais bien plutôt un besoin de l'amour en nous. Quand l'amour de Dieu entre dans une vie, il n'y amène pas seulement avec lui la volonté d'être à Dieu à partir de maintenant, mais celle de reprendre en quelque sorte tout le passé pour le donner à Dieu et par là le réparer. Alors je crois que ces quelques lignes de Yves de Montchœuil sont très éclairantes, hein, parce que justement, elles prennent acte de ce qu'il y a de positif dans la pensée d'Anselme, c'est-à-dire l'idée que la blessure, le péché, doit être réparé, qu'il y va de la dignité de l'homme et qu'il y va de l'honneur de Dieu, pour reprendre l'expression d'Anselme. Mais en même temps, le père Yves de Montchœuil souligne avec beaucoup de raison que pour éviter toute compréhension perverse de cette pensée d'Anselme, il faut mettre en évidence que la satisfaction, je relis sa phrase, n'est pas quelque chose qui précède le pardon, mais quelque chose qui le suit. Voilà. Pour m'expliquer, ce qui a été nuisible à l'époque moderne, dans certaines manières, de reprendre la pensée d'Anselme. C'est l'idée, on laissait croire d'une façon ou d'une autre qu'il fallait que l'homme satisfie à la justice de Dieu pour obtenir le pardon. Voilà. Tandis qu'en réalité, comme le dit très très bien le père de Montchœuil, la satisfaction, la réparation de l'offense, bien comprise, n'est pas quelque chose qui précède le pardon, mais quelque chose qui le suit. Elle doit être comprise bien plutôt comme un effet, comme un fruit du don de Dieu, de l'amour de Dieu, et non pas comme la condition moyennant laquelle on obtiendrait le pardon ou le salut de Dieu. C'est ce correctif, me semble-t-il, qu'il faut apporter, non pas forcément, encore une fois, à la pensée d'Anselme, mais plutôt aux dérives dont cette pensée a fait l'objet. Voilà, sur Anselme, s'il y a une autre question. Oui. Mmh. Oui, vous êtes. Oui, vous avez raison de souligner l'écart, hein, entre le langage d'Anselme, même sa problématique, et celle qui ressort de l'Évangile. Je dirais, si à chercher un ancrage biblique dans la pensée d'Anselme, à mon avis, ce serait beaucoup plus dans la thématique de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, l'honneur à rendre à la gloire de Dieu. Voilà. Ce serait plus cela que du côté de l'Évangile. Donc, je suis tout à fait d'autre avis, et personnellement, je ne pense pas qu'une théologie du salut aujourd'hui puisse ou doive s'exprimer d'abord dans ce langage, hein, de l'honneur offensé ou de la réparation qu'il faut apporter. Je ne pense pas. La pensée d'Anselme me semble intéressante plutôt d'un autre point de vue, à savoir du point de vue de la tentative quand même assez impressionnante pour rendre compte du fait que le don du salut devait passer par l'incarnation et par le fait qu'un homme, plus exactement le Dieu devenu homme, le Christ, aille jusqu'au bout au fond, dans ce que Anselme appelle la justice, mais qu'il vaudrait mieux appeler l'amour, tout simplement, l'amour pour nous et pour la multitude. C'est ça que je dirais, vous voyez. Donc, la pensée d'Anselme, j'ai voulu en parler un peu longuement parce qu'elle est quand même l'une des grandes tentatives dans l'histoire de l'Église pour essayer de penser spéculativement l'économie du salut. Et je pense que ce qui serait aujourd'hui vraiment très important, c'est de retenir, je dirais, la trame logique de son argumentation pour rendre compte du fait que ce n'est pas simplement Dieu qui pouvait sauver l'humanité, ni simplement l'humanité pécheresse, comme il dit, le pécheur ne peut pas sauver le pécheur, mais que pour ce salut, pour que l'être humain soit au fond en mesure de prendre part à la vie divine, il fallait un Dieu homme, cur Deus homo. Ça, c'est à mon avis le meilleur de la pensée d'Anselme et que nous avons vraiment à retenir dans notre propre théologie du salut. Pour le reste, je pense que cela même, justement, cette pensée que je viens de restituer dans sa trame logique la plus fondamentale, pourrait et devrait s'exprimer dans d'autres images et d'autres catégories que celles d'Anselme, pour la raison même que vous dites, à savoir que ces images et ces catégories, ne sont pas celles de l'Évangile. Voilà. Oui? Oui, alors pour Anselme, en fait, la satisfaction, hein, c'est justement une manière de dire le salut, enfin, ou le chemin, ou la voie du salut. Mais le mot satisfaction, de soi, ne recouvre pas, évidemment, la richesse du mot pardon. Là aussi, il y a je crois, une insuffisance du langage d'Anselme. Anselme parle, hein, par ailleurs du pardon. Il parle beaucoup de la miséricorde, hein. Mais dans cette phrase que vous rappelez, il n'en parle pas. Et c'est vrai que il n'en parle pas parce que son souci, si vous voulez, ce n'est qu'une étape de son raisonnement. Il ne s'agit que du premier temps de son raisonnement. À ce moment-là, il ne fait pas encore intervenir la dimension de la miséricorde ou la dimension du pardon voulu par Dieu. Mais il dit, enfin, logiquement, là où il y a péché, eh bien, du point de vue de l'homme, on va dire, il n'y a que deux possibilités, ou la peine, ou bien que l'homme répare. Il pourrait, bien sûr, du point de vue strictement anthropologique, faire intervenir, comme vous dites, un troisième terme, le pardon. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà, du point de vue humain, du point de vue anthropologique, dire que, ben, il y aurait une troisième issue? Qui ne serait ni la peine ni la satisfaction, mais le pardon. Anselme ne le fait pas. Pourquoi ne le fait-il pas? À mon avis, parce que justement, il veut mettre l'accent, c'est la suite de son raisonnement, sur le fait que cette issue qui doit être trouvée au péché, c'est une issue qui doit impliquer le pécheur lui-même. Tout au moins, qui doit impliquer l'homme lui-même. Qui doit impliquer au moins un membre de l'humanité. Voilà. Si on disait simplement le pardon, c'est l'issue, alors on pourrait tout simplement en conclure que bon, ben, l'homme a péché, ben, l'issue possible, c'est que Dieu pardonne, puis c'est terminé. Et si Dieu peut pardonner sans avoir besoin d'envoyer son fils. Mais comme la pointe de son argumentation sera de dire que le pardon ou la miséricorde passe justement par le fait qu'un fils, son fils, un homme, son fils devenu homme, aille jusqu'au bout, justement, jusqu'au bout de sa vie d'homme et jusqu'à mourir sur une croix, je pense que c'est pour cette raison qu'il ne fait pas intervenir dès maintenant la catégorie du pardon. La catégorie du pardon de soi n'impliquerait pas que ça passe par l'engagement d'un homme. Or, l'un des ressorts de l'argumentation d'Anselme, c'est de dire que, justement, il ne peut pas simplement suffire d'un pardon venu d'en haut. Il faut que ce pardon passe en même temps par le chemin d'un homme, d'un membre de l'humanité qui va jusqu'au bout de, sa mission, justement, d'aimer enfin, jusqu'à la mort sur la croix comprise, me semble-t-il. Comme ça, je comprends cette absence. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est ce que Balthazar avait en vue lorsqu'il raccrochait la problématique d'Anselme à la thématique biblique de l'Alliance. Je crois que c'est de cet ordre-là. L'absence de mention du pardon me semble liée à la rigueur même, au fond, du raisonnement d'Anselme qui veut répondre à sa question « Pourquoi un Dieu homme et pas simplement un Dieu tout court ?» Parce que si c'est un Dieu tout court, Dieu aurait très bien pu pardonner sans que ça passe forcément par un homme. Mais... Oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, alors simplement avec ce correctif hein, qu'apporte Anselme, c'est que c'est une nécessité qui n'est pas, c'est pas Dieu comme tel évidemment qui veut le péché ou la croix. Hein. C'est bon, à partir du moment où Dieu crée librement l'homme, il s'expose au risque que l'homme se retourne contre Dieu. Et donc du coup, la croix arrive. Voilà, pour tout ça, nous jette dans des abîmes, hein, comme vous voyez, ce sont des questions difficiles, mais importantes, très stimulantes, je crois, pour une réflexion sur le salut. Alors, nous verrons la prochaine fois, donc, un nouveau rebondissement des controverses sur le salut au XVIe siècle. Donc là, ce sera le Luther, d'un côté, la théologie luthérienne du salut, et puis je vous présenterai la théologie catholique en réponse à la doctrine de Luther, donc la théologie catholique qu'elle s'exprime notamment dans le décret sur la justification du Concile de Trente.